Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Maïder Gérard, mais aussi Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Anna Holweg et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meige. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Le 4 avril 1949 naissait l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. À l'époque, l'Alliance avait pour vocation d'assurer la sécurité des Européens afin de se prémunir contre la menace soviétique. 70 ans plus tard, l'URSS n'est plus, mais l'OTAN demeure et les menaces aussi, même si elles sont largement changées de nature. Aujourd'hui, la principale menace se situe peut-être en son sein. Avec un président américain, Donald Trump, qui répète à l'envi que l'organisation est coûteuse, obsolète et que ses partenaires profitent abusivement des États-Unis. Alors Donald Trump parviendra-t-il à faire payer ses partenaires? Mettra-t-il l'OTAN à la retraite? Comment le repli américain oblige-t-il aussi les Européens à repenser leur propre sécurité? Et quel sera l'avenir de la plus importante puissance militaire du monde? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. Alexandra Dobschepfer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Politologue, directrice du think tank américain German Marshall Fund. À vos côtés, Guillaume Lascon-Jarias, pardon. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes, vous, historien? Et puis chercheur à l'IRENCO, qui est l'Institut de Recherche sur les Environnements Complexes, et puis ancien chercheur au Collège de Défense de l'OTAN à Rome. Avant d'évoquer l'OTAN et son avenir, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Russie, c'est Isabelle Mandrou. Bonjour.
Dobrizine, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde et maintenant l'ancienne correspondante à Moscou, puisque vous revenez tout juste après 5 ans passés sur place.
C'est ça.
Vous venez de publier, Isabelle Mandrou, le premier volet d'une série d'articles intitulé « Ingérence russe au pluriel », dans lequel on découvre la manière dont la Russie de Vladimir Poutine étend son influence à l'étranger. Dans ce premier épisode, vous décortiquez les réseaux progressivement tissés en Europe avec un certain nombre de pays, de partis, pardon, radicaux de l'Union européenne. Mais vous avez également récemment publié un article qui décrit les réactions du Kremlin suite aux conclusions de l'enquête Mueller aux États-Unis sur l'ingérence russe dans les campagnes américaines. Il y a aussi un article sur la perte d'influence sur les anciens satellites de l'ex-URSS. On va aussi en parler, peut-être aussi sur le Venezuela. Mais d'abord, commençons avec l'Europe. Isabelle Mandrou, votre papier s'ouvre sur cette journée du 17 octobre 2014, où se déroule un sommet Europe-Asie à Milan. On est là avec une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Vladimir Poutine a son dernier rendez-vous avec Angela Merkel et François Hollande. Mais avant de rentrer, il y a un rendez-vous qui n'est pas du tout sur son agenda, avec un certain Matteo Salvini. Alors à l'époque, il est un simple député européen, secrétaire fédéral d'un petit parti d'extrême droite qui s'appelle la Lega. Depuis, il est devenu l'homme. Alors, il n'est pas Premier ministre, il n'est pas chef du Conseil, mais enfin, c'est peut-être le plus important dans le gouvernement italien. Pourquoi, à ce moment-là, le chef du Kremlin rencontre Salvini?
Ben c'est toute la question, parce qu'en fait, il voit des chefs de gouvernement, des chefs d'État, etc., dans le cadre de ce sommet. Il fait un aparté pour aller voir son vieil ami Silvio Berlusconi, et ça, tout le monde le sait. Les liens sont anciens entre les deux, l'ancien dirigeant italien et le chef du Kremlin. Et puis, finalement, il y a cet aparté, et qui est très étrange, parce que Poutine ne s'échappe pas comme ça, ne fait guère d'échapper, en fait. Et donc, c'est vraiment très étonnant. Et donc, ça, pour moi, c'était le signe que, voilà, il a conscience qu'il y a des courants en Europe qui vont croître. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit quand il reçoit Marine Le Pen en 2017, en pleine campagne présidentielle, quand même, il faut s'en souvenir, française. Mmh. Il lui dit, vous représentez un courant qui croît rapidement en Europe. Et donc, je pense que il a investi ce terrain, il a commencé à se tourner vers ses partis depuis plusieurs années, quand même.
Même si Marine Le Pen, vous dites dans votre papier, c'est un second choix, en réalité, au départ.
Oui.
C'est Fillon, hein,
c'est plutôt la droite, voilà, traditionnelle, qui est avec les réminiscences gaullistes, qui ont toujours séduit la Russie, etc. Mais, en fait, le tournant, se situe justement en 2014, c'est-à-dire après l'annexion de la Crimée et le début du conflit sanglant en Ukraine de l'Est. Eh bien, les choses vont se gâter terriblement. Mmh, c'est-à-dire qu'avec les partis dits de gouvernement, les relations se tendent beaucoup.
C'est ça, justement, l'annexion de la Crimée qui va faire que, d'un coup, quasiment, Vladimir Poutine va assumer justement ses liens avec ses partis d'extrême droite. Parce que vous le disiez, il y a Matteo Salvini avec la Lega, il y a le Front National devenu Rassemblement National avec Marine Le Pen, Il y a aussi, on en avait beaucoup parlé, cette rencontre de Vladimir Poutine du côté de l'Autriche avec Karine Knessel, qui était l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, qui fait partie de ce parti d'extrême droite autrichien. C'est l'annexion de la Crimée qui va faire que d'un coup, on va se mettre vraiment à assumer ces liens. Il ne le faisait pas avant.
Oui, parce que du jour au lendemain, il devient quand même le paria. C'est-à-dire, si on se souvient même, c'était en Australie, je crois, avec un sommet où il est parti même avant, parce qu'en fait, tout le monde le boude. Et donc, le 70e anniversaire en 2015 de la Grande Guerre patriotique, comme on nomme en Russie la fin de la Seconde Guerre mondiale, la victoire sur Hitler, les dirigeants ne viennent pas. Aucun dirigeant occidental ne vient dans les tribunes.
D'ailleurs, c'est précisément ce jour-là que Matteo Salvini diffuse la photo de la fameuse rencontre voilà. qui avait eu lieu un an avant. En fait.
Voilà, c'est ça. Et donc Poutine cherche d'autres interlocuteurs puisque c'est bloqué. Cela dit, il y a aussi un mélange d'opportunisme. Hein. Poutine est un dirigeant très pragmatique. Donc il y a la recherche de. Et puis parce que je pense qu'il est fondamentalement convaincu que justement ces partis-là vont être pour lui une porte d'entrée dans l'Europe. Et il y a aussi un mélange de fond avec son credo sur la défense des valeurs chrétiennes, etc. dont il s'est emparé, donc il y a un mélange, et donc ça a coagulé de plus en plus.
Il y a évidemment peut-être le souhait, au fond, d'influencer peut-être le paysage politique européen, mais il y a peut-être une visée plus interne, Isabelle Mandros, c'est-à-dire que c'est aussi un moyen, on ne s'en rend pas forcément compte d'ici, mais aussi un moyen d'asseoir son pouvoir.
Mais de le maintenir, surtout.
Asseoir son pouvoir, évidemment, voilà,
déjà bien assis depuis quelques temps, mais effectivement, c'est tout à fait juste ce que vous dites, c'est-à-dire que ça lui permet d'affermir son pouvoir, en tout cas qu'il exerce depuis 1999, hein, premier ministre et puis tout de suite président. Ça lui permet avec les réseaux de propagande dont il dispose, hein, que ce soit des associations ou surtout les médias pro-Kremlin, ça lui permet aussi de surfer sur cette vague de mécontentement exploitée par les partis radicaux en Europe sur la crise des migrants. Alors ça ils ont pilonné là-dessus, quoi. Donc,
oui, parce qu'on n'a peut-être pas...
Pardon, et ça lui permet de dire, mais vous voyez, c'est le chaos. Voilà. C'est nous, c'est pas parfait, bien sûr, mais c'est quand même mieux que là-bas.
Oui, parce que vous racontez, on n'a pas idée peut-être de tout cela vu d'Europe, mais à Moscou, du côté de la Russie, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un article venu de l'étranger dans lequel un expert ou un politologue s'exprime en disant, oui, c'est bien ce que fait la Russie, elle fait les bons choix. Donc c'est ça aussi.
Oui, alors justement, là, ça va avec tout le discours, la défense des valeurs chrétiennes, l'intervention en Syrie, il n'y a pas de crise des migrants en Russie, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de réfugiés, c'est vrai, ukrainiens, mais sur les réfugiés de Syrie, d'ailleurs, parce que la Russie était impliquée, hein, il y en a eu deux réfugiés qui ont obtenu le statut de réfugiés en Russie. Donc on voit bien que c'est pas du tout le... Voilà, il a très bien senti qu'en Europe, cette question allait être un peu destructrice pour l'Europe, qu'elle allait beaucoup soulever de choses, et donc il l'a exploité. Et donc ils font appel à des pseudo-experts, etc., en permanence. Et en permanence, c'est le discours l'Europe, ça va pas bien. Et puis alors, il y a le Brexit aussi. Et puis regardez, les gilets jaunes. Et puis voilà, ça va pas bien. Et donc chez nous, ça va pas si mal que ça. Ouais. C'est ça le message, effectivement.
Ouais, il se construit, c'est intéressant, il se construit au fond une image de chef de file du nationalisme, alors qu'en réalité, quand on regarde du côté de la Russie, pendant très longtemps, il n'était absolument pas vu comme un nationaliste, c'était même plutôt un libéral, c'était l'image de Poutine, le libéral.
Il est arrivé alors c'est pas tout à fait l'image qu'il avait, mais il est arrivé effectivement dans la succession de Boris Estine, où les libéraux, comme on les appelle en Russie, c'est pas tout à fait les mêmes connotations qu'ici, mais en tout cas où les libéraux étaient largement au pouvoir. Il est arrivé dans ce contexte-là. Donc, effectivement, il était plutôt assimilé à un libéral. Maintenant, faut se souvenir de ses origines. Hein. Il a été quand même agent du KGB, donc c'est un pur produit quand même du système aussi soviétique et qui réutilise d'ailleurs beaucoup de recettes aujourd'hui.
Mais en tout cas, il n'avait pas le soutien des franges les plus nationalistes de Russie.
Pas du tout, au contraire. C'était même au départ, c'était ses plus farouches opposants. Il y a eu des grandes manifestations dans les années 2000 en Russie avec les nationalistes qui le voyaient plutôt comme un libéral. Là encore, c'est la Crimée, et c'est ce qui s'est passé en Ukraine qui va tout changer. C'est-à-dire que les nationalistes russes, qui sont très nationaliste, hein, faut savoir, c'est très très nationaliste. Hein. Mais ils vont se diviser entre ceux qui sont côté russe, si vous voulez, vis-à-vis de l'Ukraine, et ceux qui vont maintenir leur lien avec l'Ukraine. Donc là, ils ont été divisés, et puis la propagande a fait le reste. Hein.
Alors, on voit bien l'intérêt de la Russie dans tout ça. L'intérêt maintenant pour les partis d'extrême droite, nationalistes, européens. Quel est l'intérêt de s'afficher comme ça avec Vladimir Poutine et d'avoir le soutien officiel du régime russe?
C'est une reconnaissance, hein. Je veux dire, Marine Le Pen avait essayé d'ailleurs d'être reçue par Trump, elle y avait échoué. Là, c'est un autre grand quand même, parce que Poutine occupe bien la scène internationale. Donc c'est un autre grand, et donc elle est reçue officiellement. Donc pour elle, c'est tout bénéfice, quoi, bien sûr. Donc il y a le, et puis c'est justement, ça correspond aussi au discours de Poutine qui est, il faut un monde multipolaire, on va pas subir encore la domination des États-Unis, etc. Tous ces partis sont liés par un anti-américanisme assez virulent. Ouais, donc ouais. ils ont trouvé en Vladimir Poutine une figure puissante, parce que c'est quand même un dirigeant à la tête d'un pays, d'un grand pays. Donc ils ont trouvé une figure justement qui les valorise.
Ouais, c'est ça. Et au fond, ils ne sont plus que des partis d'opposition dans des paysages nationaux, mais ils deviennent des éléments d'un courant beaucoup plus vaste, un courant alternatif, supranational.
Oui, et puis il y en a qui, Matteo Salvini est arrivé au pouvoir, mais enfin jusqu'à présent, ils étaient aux portes du pouvoir, donc la reconnaissance par quelqu'un comme Vladimir Poutine est très important pour eux.
Essayons un tout petit peu, Isabelle Mandreau, de voir qui il y a derrière la mouvance disons pro-russe par exemple du côté de la France. Alors il y a les visages très connus, Marine Le Pen on en parlait, il y a Émeric Choprade, il y a Thierry Mariani qui était encore il y a pas très longtemps en Crimée, Thierry Mariani, ancien républicain qui a rallié donc le Rassemblement National et qui sera candidat pour les européennes. Mais il y a peut-être d'autres figures moins connues, je pense à Xavier Moreau que vous évoquez, Fabrice Orlin, Pierre Malinowski. Vous nous dites un peu qui ils sont et concrètement ce qu'ils font pour essayer justement de servir les intérêts russes.
Alors ils viennent, ils sont tous dans l'orbite de la droite extrême en France, hein, ça, ils ont été plus ou moins dans l'orbite de Jean-Marie Le Pen pour certains, et aujourd'hui ils investissent aussi d'un autre côté la Russie. Certains d'entre eux, tels Xavier Moreau, etc., sont installés depuis une quinzaine d'années en Russie. D'autres sont beaucoup plus récents, Pierre Malinowski est quelqu'un qui est apparu dans le paysage beaucoup plus récemment, et ils s'emploient effectivement à tisser des liens de plus en plus étroits entre le pouvoir russe et l'extrême droite française, dans toutes ces facettes. Pas seulement le Rassemblement National, mais toutes les facettes de l'extrême droite.
Donc à travers un certain nombre d'associations, de fondations, je pense à la Fondation Franco-Russe, l'Institut de la Démocratie et de la Coopération chargé d'observer les violations des droits de l'homme en Europe et aux États-Unis. Comment elles sont financées? Il y a de l'argent qui vient directement de...
Ça vient directement du Kremlin, bien sûr. La présidence de cette association que vous avez mentionnée a été nommée par décret par Vladimir Poutine. Donc, c'est de l'argent qui vient du Kremlin. Et donc, comme autrefois, d'ailleurs, l'URSS finançait les partis communistes un peu dans le monde, etc. Aujourd'hui, il y a des liens de financiers qui sont...
Seulement les associations ou aussi les partis? Il y a évidemment, en France, on se souvient, en 2011, le Front National avait été financé en partie, il y avait eu 9 millions de prêts d'une banque russe. Alors à l'époque, Marine Le Pen avait expliqué que elle est allée chercher l'argent là où on voulait bien lui donner, qu'aucune banque française ni européenne n'avait donné d'argent au Front National et que donc c'est une banque russe qui l'avait financé. Mais est-ce qu'il y a un caractère systémique à tout ça?
Moi je le pense, mais il n'est pas toujours facile à prouver, hein, bien sûr, parce que ça passe par des réseaux financiers qui sont un peu opaques, bien sûr.
Et les journalistes italiens qui ont enquêté là-dessus sur la Lega, ils n'ont pas réussi à déterminer vraiment...
Ils n'ont pas eu la certitude que la transaction avait eu lieu. Ouais. Ils ont les détails sur les négociations, mais sur le fait que la transaction elle-même a eu lieu, ils n'en ont pas la certitude. Donc ce qui permet à Matteo Salvini de dire qu'il n'y a pas de circulation d'argent avec Moscou. Maintenant, on peut en douter quand même.
Quittons l'Europe, Isabelle Mandreau, allons du côté des États-Unis. Il y a quelques jours, le procureur spécial Robert Mueller a rendu ses conclusions sur l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne américaine. Son rapport écarte toute collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, même s'il ne remet pas en cause la réalité des tentatives de Moscou pour peser sur le scrutin. Aux États-Unis, Donald Trump a exulté. C'est une épée de Damoclès quand même qui disparaît et qui lui ouvre la porte pour une éventuelle réélection. Mais comment est-ce qu'on a réagi du côté de Moscou?
Alors, du côté de Moscou, on n'a pas tout à fait crié victoire, même si on dit, ah bah voyez, il n'y avait pas de collusion. Mais en fait, quand même, il reste 25 ressortissants russes qui sont poursuivis par la justice américaine pour, justement, toute tentative d'intrusion de multiples façons. Donc, en fait, si le rapport a écarté pour l'instant, enfin le rapport, le résumé qu'on a vu, parce qu'on a vu un résumé de 4 pages, on n'a pas vu encore le rapport entier, mais finalement, la preuve n'a pas été apportée que le président Trump lui-même avait été en négociation avec le Kremlin, par exemple. Mais si ce rapport écarte un peu la collusion directe de M. Trump, elle n'écarte pas, elle ne blanchit pas Moscou de toutes ses tentatives. Donc là encore, la Russie, le Kremlin sait très bien que ça va continuer. Donc voilà, ils ont compris, ils étaient enthousiastes au début en disant super, avec Trump ça va s'arranger. Et puis ils ont compris que l'administration derrière ne suivrait pas quoi. Moi j'étais au sommet d'Helsinki cet été entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui était le premier bilatéral entre eux. C'était très très étrange. C'était Trump effectivement ne tarissait pas d'éloges sur Monsieur Poutine. Il cassait du sucre sur ses propres services de renseignement. C'était quand même très très étrange quand même quand on me rencontre. C'était même troublant. Je vais vous dire, moi je suis ressortie très troublée de ça. Maintenant, voilà, la justice américaine fait son travail et pour l'instant, l'implication de M. Trump directement n'est pas prouvée. Mais Moscou reste quand même dans l'œil du viseur.
Il y a évidemment la relation entre les deux hommes, mais au fond, est-ce que les relations russo-américaines ont fondamentalement changé avec l'arrivée de Trump? Est-ce que c'est ce qu'on se dit du côté de Moscou?
Mais non, elles ont même empiré. En fait, elles ont même empiré parce que les Américains se sont retirés du traité des missiles à portée intermédiaire. Les sanctions ont continué à pleuvoir. Hein. Les Américains, ils alignent les sanctions en ce moment sur la Russie. Donc non, ça s'est pas du tout arrangé. Et les relations restent, en dehors des deux hommes, les relations restent très très mauvaises quand même.
Isabelle Mandreau, vous avez écrit également un papier sur les anciens satellites. Parce que vu d'Europe, on insiste beaucoup sur l'idée que la Russie a encore un poids politique considérable sur tous les pays de l'ex-URSS, ce qui est évidemment vrai, mais vous semblez dire aussi que cette influence, elle est en perte de vitesse. Alors en quoi est-ce qu'elle serait en perte de vitesse? Qu'est-ce qui l'illustre et que fait Moscou justement pour enrayer tout cela?
Parce que depuis l'effondrement de l'URSS en 1991, tous ces pays ont acquis leur indépendance. Et ils sont assez chatouilleux maintenant, bien sûr, ils sont assez chatouilleux sur leur indépendance. Donc, ils sont bien sûr liés pour beaucoup de façon des liens commerciaux, des liens bon, même historiques et culturels, ça reste ça. Mais ils se sont quand même affranchis, ils ont envie d'avoir leur propre politique étrangère.
Y compris les plus proches, je pense à la Biélorussie par exemple.
Y compris les plus proches. Alors là en ce moment, ça coince un peu entre la Biélorussie et la Russie, tout ça parce qu'au plus haut niveau du pouvoir en Russie, on a exhumé un accord de 99 qui prônait une confédération biélorusse et russe avec un seul président, un seul drapeau, un seul parlement, etc. Et Loukachenko, évidemment, il n'est pas tellement d'accord avec ça. Donc ça coince un peu, beaucoup en ce moment, donc même avec des très proches, ça coince. Et puis, encore une fois, je pense que ce que...
Et puis, on a aussi ouvert la porte à l'arrivée de nouveaux diplomates américains en Biélorussie.
Oui, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, effectivement. Donc là, effectivement, c'est un signe. Mais je pense que Loukachenko le fait, évidemment, pour énerver le Kremlin. Et ça marche à tous les coups, ça. Mais, en fait, c'est une indépendance qui est importante pour eux. Et lorsqu'il y a beaucoup encore changé les choses, c'est ce qui est arrivé en Ukraine. Parce que les autres pays se sont dit, oh là là, et si un jour ça nous arrivait à nous, quoi.
Ouais, vous écrivez, les deux guerres menées contre la Géorgie en 2008, puis contre l'Ukraine en 2014 ont durablement nui à son image dans sa propre arrière-cour géopolitique. Et malgré des déclarations conciliantes, notamment en Arménie ou au Kazakhstan, aucun des pays de la CEI n'a formellement reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie, pas plus qu'ils n'ont reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Donc malgré les apparences, les aventures militaires russes, les dernières années, ont eu tendance à dégrader considérablement son image dans ces pays-là.
Oui, ça dégrade l'image de chacun, se sent un peu concerné. La Biélorussie est très proche de l'Ukraine, donc ils se sentent un peu concernés aussi. Les pays baltes ont peur, etc. Mais encore une fois, même en dehors de ça, ces pays-là qui ont acquis leur indépendance ont tissé des liens aussi commerciaux avec l'Europe. La Moldavie ou l'Arménie ont tissé des liens importants avec l'Europe, etc. Donc, voilà. Donc ils voudraient tenir. Ils n'ont pas envie de rentrer dans l'orbite russe comme ils l'étaient auparavant. Donc là aussi, et puis ils savent que c'est voilà, que que c'est une cohabitation des fois qui est un peu... Eux aussi, ils ont les réseaux de propagande et les médias de propagande du Kremlin. Eux aussi, ils les ont chez eux.
Et alors, c'est peut-être parce que justement, on a cette perte d'influence dans le voisinage direct qu'on va voir un petit peu plus loin, et notamment du côté du Venezuela. On sait que Moscou fait partie des pays qui soutiennent encore Nicolas Maduro. Et ces dernières semaines, il se trouve qu'il y a des moyens russes qui sont arrivés du côté de Caracas avec des avions qui sont là. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Et au fond, pourquoi la Russie va comme ça au Venezuela?
Je pense qu'elle est dans une démonstration. C'est-à-dire qu'elle est dans une démonstration en disant, voilà, on ne laisse pas tomber nos partenaires. Hein, ça, c'est un grand gimmick du Kremlin. Donc, voilà. Et puis, cette arrivée soudaine, en fait, d'une centaine de militaires était très voyante. C'était fait pour être visible. Un avion qui arrive comme ça sur le tarmac de Caracas avec 100 militaires en uniforme qui descendent et dont le chef adjoint des commandants du QG des forces terrestres de Moscou. Alors, bon, là, on ne fait pas plus qu'avec 35 tonnes de matériel. Alors, évidemment, pourquoi c'est fait? Après coup, le Kremlin, le porte-parole, a dit « ce sont des spécialistes ». Mais oui, mais spécialistes de quoi? Enfin, encore une fois, il faut se souvenir qu'en Crimée, c'était les petits hommes verts. Là, ce sont des spécialistes qui arrivent. Donc, voilà. Mais je pense que c'est surtout une démonstration, histoire d'irriter un peu Washington, et puis en disant « on est là ».
C'est voilà. Pour mettre un hérisson dans le pantalon des Américains.
Voilà, c'était une très belle expression de Khrouchtchev. C'est une très belle expression de Khrouchtchev qui avait été utilisée en 1962 lors de la crise de Cuba qu'un expert militaire russe m'a fort judicieusement rappelé.
Merci beaucoup Isabelle Mandreau d'être passée dans nos studios et donc bon retour en France. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, qu'on peut bien sûr lire et relire vos papiers sur le site du Monde. Только ложью не любя, да разве без тебя на свете друзей не будет у меня. Дела нет мне до такого. Allez, on va quitter la Russie et s'intéresser tout de suite à l'OTAN. 70 ans après sa création, Trump mettra-t-il l'OTAN à la retraite? C'est la question qu'on va se poser ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque cette semaine, donc, l'OTAN fêtait ses 70 ans, l'anniversaire à l'occasion duquel se sont rencontrés à Washington les États membres, mais aussi son secrétaire général, l'ancien Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg, qui a prononcé un discours devant le Congrès américain.
Depuis la signature du traité qui a fondé notre alliance en 1949, chaque congrès, chaque président américain, les hommes et les femmes en uniforme et le peuple des États-Unis ont toujours été des soutiens acharnés de l'OTAN. L'Amérique a été la colonne vertébrale de notre alliance. Elle a été fondamentale pour assurer la sécurité et la liberté de l'Europe. Nous n'aurions pas l'Europe en paix et prospère que nous voyons aujourd'hui sans les sacrifices et l'engagement des États-Unis. Donc l'OTAN a été bonne pour l'Europe, mais l'OTAN a aussi été bonne pour les États-Unis. But NATO has also been good for the
United States. Voilà, l'OTAN est bonne pour tout le monde, pour l'Europe, pour les États-Unis. Derrière ce satisfait-site du patron de l'OTAN se cachent de nombreuses attaques, celles de Donald Trump qui, depuis son élection, ne cesse d'appeler à un meilleur partage du fardeau, à réprimer les pays membres qui ne déboursent pas suffisamment dans leurs dépenses militaires tout en bénéficiant des efforts consentis par les États-Unis. Alors, 70 ans après sa création, faut-il s'inquiéter pour l'avenir de l'OTAN? Alexandra Daubscheffer et Guillaume Lasconjaria sont nos invités. On va commencer avec vous, Marc Sémo, comme on le fait chaque semaine. Depuis son arrivée, c'est vrai que Donald Trump n'a eu de cesse de critiquer l'OTAN. On se souvient du sommet l'année dernière à Bruxelles en juillet dernier, au cours duquel il y a eu des tensions extrêmement fortes avec les pays membres. Il faut payer maintenant et pas dans 10 ans, voilà ce qu'il avait lancé. Là, visiblement, le sommet était un petit peu plus serein. Le président américain s'est même félicité des efforts consentis ces derniers mois. Il n'empêche évidemment que l'OTAN est toujours une institution en crise et que si elle couvait en fait depuis longtemps, Donald Trump a quand même beaucoup participé à la précipiter.
Oui, mais quelque part, je crois qu'il faut remercier Vladimir Poutine. Parce que la montée en puissance agressive de la Russie, l'annexion de la Crimée, qui était quand même, il faut le rappeler, la première annexion par la force d'un territoire en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a malgré tout redonné à l'OTAN un peu sa raison d'être. En effet, rarement dans l'histoire, une alliance a survécu à la disparition des raisons qui l'ont fait naître. Et après 1989, l'alliance était dans le doute sur elle-même. Elle aurait pu finir comme le pacte de Varsovie en se dissolvant. Alors depuis, bon, l'OTAN a élargi son territoire. Il y a eu l'Afghanistan. Ça a été le pivot de l'intervention en 2011 en Libye. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, cette PGNR, elle est en crise. Tu le rappelais, Donald Trump avait dit ouvertement en arrivant à la Maison-Blanche, l'OTAN est obsolète. Il insiste sur le partage du fardeau et menace même à l'occasion de se retirer de l'OTAN. La Turquie, qui est le pilier du front sud-est, qui est la plus grande armée terrestre, au moins numériquement, de l'OTAN, est en train d'acheter ou faire le chantage à l'achat de missiles russes S-400 pour sa défense antiaérienne. Mais cette situation, bon, y a une partie où chacun surjoue. Et surtout, c'est une grande opportunité pour obliger les Européens de l'Alliance à se prendre en main. On le voit avec les Allemands. Merkel a dit, oui, on ne peut plus compter totalement sur les États-Unis. Ils sont paralysés. En revanche, la France, qui a été un peu l'enfant terrible de l'OTAN, qui avait quitté le commandement intégré, avec Emmanuel Macron, pousse pour, justement, créer une autonomie stratégique pour que l'Europe retrouve sa raison d'être pleinement au sein de l'OTAN.
On va évidemment parler, bien sûr, de l'Europe. Alexandra Dobschaffer, Guillaume Masconjarias, peut-être une première intervention sur, effectivement, cette OTAN qui est en crise, au bord de la retraite ou pas. Donald Trump a dit qu'il y avait beaucoup d'efforts qui avaient été consentis. Des progrès formidables, a-t-il dit, ont été réalisés de l'OTAN. Et aujourd'hui, l'OTAN est beaucoup plus forte. Depuis ma prise de fonction, c'est une montée en flèche. Les gens payent et je suis très heureux. Bon, tout va mieux à l'OTAN, j'ai l'impression, Alexandra Dobschaffer. Hein.
Le problème, en fait, de l'OTAN, c'est son histoire. C'est son histoire, puisque l'OTAN est une alliance militaire du XXe siècle, hein, comme on l'a dit, une alliance qui s'est créée au moment de la guerre froide. La précipitation de la signature du traité de l'Atlantique Nord, ça a été le blocus de Berlin à l'époque de l'Union soviétique de Staline, donc à partir de juin 1948. Et effectivement, ça a impulsé à la fois chez les Européens et notamment les Britanniques. Hein. C'est vraiment les Britanniques qui ont insisté que les États-Unis s'intéressent davantage à la sécurité européenne. Et de l'autre côté, les Américains ont réalisé qu'il fallait beaucoup jouer un rôle plus actif aussi dans la protection, la défense de l'Europe face à cette menace soviétique. Donc je dirais que cette marque de fabrique, cette image de l'Alliance en tant qu'alliance de guerre froide reste encore au XXIe siècle. Et donc tout l'enjeu pour cette alliance du XXe siècle, c'est comment est-ce qu'elle va s'adapter à cet environnement international du XXIe siècle qui change extrêmement rapidement.
Visiblement, elle a un peu de mal à s'adapter, quasiment 30 ans. Hein.
Alors,
elle s'est toujours pas adaptée. Hein.
C'est très compliqué parce que l'alliance, si elle a
survécu. Je vais passer la parole.
si elle a survécu 70 ans, cette alliance atlantique, c'est qu'elle a quand même su s'adapter aux changements successifs. Hein. Et c'est notamment sous l'impulsion des États-Unis que cette alliance a élargi ses missions. Ouais, elle est allée en Afghanistan, etc. Après, comment évaluons-nous le succès, justement, de cet élargissement à la fois géographique de l'OTAN, qui est perçu comme une trahison par la Russie, qui continue à poser un problème dans notre relation avec la Russie, et quel bilan fait-on de cet élargissement des missions de l'OTAN aujourd'hui?
On va y revenir. Guillaume Lascongiarias et puis Marc Semo.
Je pense qu'en fait, sur la question du rapport transatlantique, la question entre les Américains et les Européens, se pose la question en fait du grand frère. Très, très logiquement, la période de la guerre froide, c'est les États-Unis qui soutiennent l'Europe et qui constituent finalement cette espèce de lien ou de liant face à une menace unitaire qui est la Russie. La disparition de la Russie, en fait, c'est ça le problème, c'est que désormais, les Européens, finalement, considèrent
eux
aussi...
Disparition de
l'URSS ? L'URSS, pardon.
Non, je voulais être sûr.
Mea culpa, un lapsus révélateur. Peut-être, la disparition de l'Union soviétique, effectivement, pose la question de savoir quelle sera la direction stratégique à aborder. Cela dit, les questions de l'évolution de l'OTAN, ça a pris du temps, mais y compris pendant la guerre froide, on a eu des moments où l'OTAN s'interrogeait sur quelle était sa posture et comment est-ce qu'elle devait elle-même se refonder. En 1967, il y a un rapport extraordinaire qui sort, on y fait souvent référence d'ailleurs au sein de l'OTAN, c'est le rapport Armel. C'est à l'époque le ministre des Affaires étrangères belge, Pierre Armel, qui en fait élabore, il n'y a pas tout ça, il y a un conseil des sages autour de lui, qui élabore finalement la manière dont l'OTAN doit prendre les leçons apprises depuis 1949 pour que l'OTAN soit capable de mener à la fois une politique de défense ferme, mais aussi de détente. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui nous manque aujourd'hui.
Marc Semo.
Oui, mais est-ce que c'est pas finalement plus une crise de l'alliance, c'est-à-dire diplomatique entre les pays qui composent l'OTAN, qu'une crise même de l'organisation? C'est-à-dire, on voit, y compris que les Américains, par exemple, malgré tout ce qu'a dit Trump, continuent à augmenter même les fonds qu'ils donnent pour la défense, y compris en Europe. Et est-ce que deuxièmement, est-ce que la force de l'OTAN aussi, à contrario, c'est pas le fait que quelque part, elle était remplaçable. C'est-à-dire, on ne pourrait plus aujourd'hui refaire une telle alliance.
Mm-hmm. Oui. Alexandra de Schaeffer. Alors... Et puis, il faudra nous dire sur les financements si effectivement, oui, on est sur les trajectoires qu'on avait prévues. Mais
Non, l'OTAN a été, pour recouper avec ce qui a été dit précédemment, l'OTAN en fait est en crise perpétuelle d'identité et de raison d'être depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Donc c'est pas nouveau, hein, cette question, est-ce que l'alliance est toujours pertinente ou pas, c'est quelque chose de très récurrent depuis la fin de la guerre froide. Là, ce qui est extrêmement intéressant, puisqu'on parle de ce lien transatlantique qui est vraiment le cœur de ce qu'est l'Alliance Atlantique, c'est qu'il y a une inversion en fait du rapport de force au sein même de cette alliance. Et ça nous déstabilise, nous, et ça déstabilise aussi les États-Unis. Depuis le début, en fait, cette OTAN, c'est America first, en quelque sorte. Hein. C'est l'Amérique d'abord. Hein. Les transformations successives des missions de l'OTAN, c'est les États-Unis qui l'ont fait. C'est les États-Unis qui sont servis comme outil pour faire avancer leurs intérêts stratégiques de moins en moins en Europe et de plus en plus en dehors de l'Europe. Après les attentats du 11 septembre 2001, l'Afghanistan, maintenant c'est la Chine, le cyber. Comment est-ce qu'on intègre les nouvelles priorités stratégiques américaines comme priorité de l'OTAN? Ce qui se passe maintenant, c'est que le leadership américain, certes, se réaffirme, je suis d'accord avec vous, notamment sur le flanc est de l'Alliance, donc avec un réinvestissement militaire, on le voit face à la Russie. Hein, donc c'est vraiment la politique de dissuasion qui a été accentué sous Trump. Donc effectivement, regardons les faits. Mais en même temps, il y a l'idée que les Européens devraient davantage prendre en charge le fardeau de leur propre sécurité, notamment aussi sur le flanc sud. Hein, on voit qu'ils ont envie de se désengager de l'Afrique, du Moyen-Orient, que la Syrie soit gérée par la France et ses alliés européens. Et donc ce qui se passe, c'est que l'avenir proche à moyen et long terme de l'OTAN va moins dépendre des États-Unis, ce qui a été le cas ces 60 dernières années, et davantage de nous, Européens, de ce qu'on pourra faire en plus pour assurer notamment, je dirais, cette force de dissuasion qui est au cœur de la mission de l'Alliance Atlantique. Et c'est une chance, je suis tout à fait d'accord, mais le problème c'est qu'on est, et c'est ce que vous disiez, on est très divisé aujourd'hui à l'intérieur de l'Union Européenne. C'est ça le problème principal, et donc il y a un manque de cohésion à la fois politique, le fameux partage des valeurs, et il y a un manque de cohésion stratégique. Quelles sont nos priorités à chacun au sein de l'Alliance? Et là, on n'est pas en accord.
Mais alors justement, s'il y a de plus en plus de divergences dans les priorités des uns et des autres, est-ce que finalement, il n'y a pas un moment où les États-Unis pourraient se dire, on n'a plus véritablement besoin de l'OTAN. Nos priorités sont un peu ailleurs. Par ailleurs, j'allais dire, quand même, c'est eux qui mettent essentiellement la main à la poche. Je crois que c'est plus de 70% du budget de l'OTAN, c'est les États-Unis. Donc pourquoi s'embêter avec une telle alliance alors que ça ne défend pas nos propres intérêts? Donald Trump n'est pas homme à s'embêter. Il peut déchirer un accord de Paris. Il peut déchirer l'accord de partenariat transpacifique. Est-ce qu'il pourrait déchirer, pourquoi pas, l'accord qui lie avec les autres États membres de l'OTAN, Guillaume Lasconjarias?
Là, je pense qu'il y a toujours un effort de redéfinition à faire, ce qui est important sur la question du budget. Je pense qu'il y a là encore une erreur fondamentale qui est de considérer que l'argent que mettent tous les pays et qu'on cumule pour définir voilà combien pèsent les pays de l'OTAN, en fait, en réalité, tout ne va pas vers l'OTAN. C'est-à-dire quand les États-Unis mettent 600 milliards, c'est pas 600 milliards pour l'OTAN, c'est 600 milliards pour la totalité de leurs actions planétaires dans le cadre de leur politique de défense. Et donc, une partie là-dedans va être consacrée à l'axe ou l'architecture de sécurité euro-atlantique, et donc, en partie, à l'OTAN. Quand la France, sur ses 32, 33, 35 milliards, elle en met aussi un peu sur des missions qui seront rattachées à l'OTAN, par exemple, lorsqu'on fait la mission Lynx actuellement en Lituanie, oui, c'est lié à l'OTAN, mais c'est pas la totalité de l'effort. Mmh. Donc il faut bien distinguer, à mon avis, cette chose. C'est-à-dire, quand les États-Unis pèsent pour 70% des budgets des 29 nations otaniennes, oui. Mais en revanche, quand on regarde combien est-ce qu'ils financent à hauteur l'organisation, là on est à 23%. C'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que, pour revenir sur ce que disait Alexandra, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est pas tellement la question aussi des priorités, c'est derrière. Effectivement, il faut bien définir ce que l'on veut faire, mais aussi avec quoi. Et le problème de l'OTAN, c'est que depuis la fin de la guerre froide, parce que c'est une volonté aussi des alliés, on a fait une cure d'amaigrissement sévère. On est passé de 33 états-majors à 7, on est passé de quasiment 30 000 personnes dans la structure à un peu moins de 7 000, et on a élargi en même temps le spectre des missions. Est-ce qu'on est capable de faire ?
Marc Semo ? Alors, il y a une question aussi qui se pose, il y a le financement bien sûr, mais il y a le fameux article 5, qui est vraiment la pierre angulaire du traité, c'est-à-dire c'est cet article qui stipule qu'une attaque contre l'un de ses membres serait considérée comme une attaque contre tous et donc pourrait entraîner une riposte collective. Et aujourd'hui, certains doutent que les États-Unis, au fond, respecteraient ce principe de solidarité en cas de nécessité. Est-ce qu'il y a des raisons d'en douter, Alexandra Dobscheffer ?
Pour être réaliste, oui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, à l'ère Trump, après on peut se dire, est-ce que c'est un levier justement de négociation, de pression supplémentaire sur les Européens? Mais quand il s'est référé justement au Monténégro, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on interviendrait pour sauver ce tout petit pays qu'est le Monténégro?
Est-ce que c'est totalement nouveau? Parce que par exemple, pendant la guerre froide, à la fin, à l'époque des euromissiles, la raison même de l'installation des euromissiles en Europe, c'était de dire, on ne peut pas être sûr que les États-Unis répondront en déclenchant le feu nucléaire avec les missiles intercontinentaux, si l'Europe est touchée.
C'est vrai.
Donc finalement, ce doute
est permanent.
A toujours existé.
Bien sûr. Après, ce qui est quand même très gênant dans ce discours-là, c'est que ce discours d'abord est fait publiquement. Donc par rapport à des puissances comme la Russie, voire même la Chine, hein, qui est de plus en plus présente en Europe et dans cette relation transatlantique, c'est pour eux, ça joue en fait leur politique de division intra-européen et transatlantique. Donc je pense qu'il faut faire attention, et je pense que du coup la décision de pas inviter les chefs d'État à ce 70e anniversaire de l'OTAN était une bonne décision, d'essayer de le revoir un petit peu à la baisse, puisque trop exposer publiquement nos divisions intra-alliance, c'est très mauvais en termes de crédibilité, et notamment ça remet en cause le principe même de ce qu'est l'Alliance Atlantique, c'est la solidarité.
Guillaume Lascongeria, sur ce principe de solidarité.
Il y a un point essentiel, c'est que des crises au sein de l'Alliance, il y en a toujours eu, donc c'est pas non plus une nouveauté. Ce que l'on remarque, c'est effectivement que la crise au sein de l'OTAN, elle est aussi la montée des démocratures, des espèces de démocratie libérale qui fragilise aussi le discours autour d'une alliance de valeurs. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, entre l'Est et l'Ouest, les valeurs sont à nouveau partagées, à l'heure du Brexit, à l'heure des questions autour de la Turquie, vous avez rappelé la question des S-400, ça c'est un point qui...
Les S-400, il faut dire pour les auditeurs, c'est des systèmes antimissiles russes. Il se trouve que la Turquie a décidé d'en acheter à la Russie, ce qui n'a pas du tout plu aux États-Unis.
Tout à fait, qui n'a pas plu aux États-Unis. Et donc, ces questions de tension, elles sont effectivement, elles ne sont pas récentes. Là où il y a une quelque chose qui est un petit peu ambigu, c'est que l'article 5, effectivement, c'est la pierre angulaire de l'Alliance. On s'interroge sur sa validité, mais j'ai presque dire nos adversaires aussi. La Russie, quelque part, les méthodes ou les stratégies, de conflits hybrides qu'elle met en place, montrent bien qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs que l'Amérique viendrait ou ne viendrait pas.
Donc, au fond, le doute profite à l'OTAN d'une certaine manière.
L'incertitude, c'est fondamental. Absolument. En termes de dissuasion stratégique.
11h37, on va placer notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs, de caricaturistes du monde entier. Vendredi, on sélectionne un dessin, on le diffuse sur les réseaux sociaux. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Alors c'est pas très très facile de faire un dessin sur l'OTAN, mais c'est un dessinateur indien qui s'y est collé, Nat Paresh.
Oui, il a relevé le défi. Et quelle meilleure idée pour représenter une institution qui est avant tout une alliance militaire, et bien qu'un char d'assaut. Nat Paresh, dit Paresh, un caricaturiste indien, pardon, qui publie notamment pour le Khalish Times, un journal basé à Dubaï, a donc dessiné un énorme blindé flanqué du sigle NATO, l'OTAN en anglais, et de son symbole, une rose des vents. vent à quatre directions. Sauf que ce char, aussi imposant soit-il, eh bien, est à l'arrêt. Il semble même chercher son chemin et du coup, les soldats qui étaient à l'intérieur sont tous sortis du véhicule. Une dizaine d'hommes agglutinés sur le toit. Où allons-nous, semble-t-il se demander, quel est notre adversaire, vers où faut-il pointer notre canon? Et déjà, chacun brandit sa réponse. L'ennemi, c'est la Russie pour l'un. C'est le terrorisme pour un autre. Ce serait plutôt l'immigration illégale pour son voisin. Ce sont les cyberattaques pour celui d'à côté. Mais non, c'est la montée en puissance de la Chine, avance encore un autre. Bref, une multitude d'adversaires dont finalement aucun n'est désigné comme la menace prioritaire. La division est totale et la stratégie à adopter, on ne peut plus embrouiller. Et voilà soudain que l'un des soldats, le plus lucide peut-être, s'exclame « Comment allons-nous combattre l'ennemi de l'intérieur, mes amis ?» Bonne question, mais au fait, qui est cet ennemi de l'intérieur? Paresh fait-il allusion au président américain et à ses virulentes critiques sur l'OTAN? À moins que ce ne soit le manque d'unité au sein de l'Alliance, cet ennemi intérieur. D'ailleurs, on le voit bien, la méfiance règne entre les soldats. Chacun se regarde à la dérobée, les visages sont fuyants et les postures mal assurées, comme si chacun soupçonnait ses camarades de n'être là que pour défendre ses propres intérêts, comme si chacun avait des choses à se reprocher. En tout cas, le message est clair. Si l'OTAN veut continuer d'avancer, il lui faudra définir plus clairement ses objectifs et se doter d'une ligne stratégique plus lisible. Bref, se redonner une raison d'être. Comme le dit Paresh, l'OTAN ne manque pas d'ennemis, mais le plus grand est peut-être à l'intérieur.
Réaction avec nos invités Alexandra Dobschaeffer, Guillaume Lascongérias sur le dessin.
Je le trouve déjà très bien fait parce que cette question finalement de savoir quel est l'adversaire principal, oui, c'est véritablement l'ambiguïté depuis aujourd'hui une dizaine d'années, un peu moins en réalité, du est-ce qu'il faut favoriser ce qu'on appelle la direction stratégique Est, c'est-à-dire la Russie, ou bien est-ce que la direction stratégique Sud, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus de menaces beaucoup plus larges, l'immigration illégale, le terrorisme, ou bien quelque chose qui est même au-delà, autour, le cyber. Et ça donne en fait l'émergence de, d'un côté, ce qu'on appelle des politiques de dissuasion, c'est-à-dire le volet ou le pilier deterrence, comme disent les Américains, et puis au sud, quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la projection de stabilité, qui englobe en partie la gestion de crise, en partie les questions aussi de sécurité coopérative, et qui pose en fait la question et le risque d'une fragmentation de l'OTAN. Mmh. Ce dont l'OTAN ne veut pas parler. Alors, à la place, on parle de défense à 360. Isabelle Mandreau parlait de hérisson. Bien, c'est un des premiers symboles de l'OTAN, le hérisson. Alors voilà, on fait le pic.
Alexandra,
le problème, c'est que quand on touche à, effectivement, et ce dessin le montre très bien, à toutes ces différentes missions et à ces différentes menaces, on perd en termes de cohérence et de cohésion. Mmh. Aujourd'hui, on demande à un Américain quelle est votre priorité, ça va être la Chine. D'ailleurs, il commence à dire la Chine, c'est la nouvelle Russie pour l'OTAN. Mmh. Et le discours de Mike Pence devant le parterre d'Européens à l'occasion du 60e anniversaire était très révélateur de ce sens. Les Polonais, c'est la Russie. Et pour les Turcs, par exemple, c'est le contre-terrorisme et la Méditerranée. Mmh. Donc, comment faire le défi pour cette alliance et comment faire... En fait, on ne peut pas modifier ces perceptions de menaces différentes. En France, la menace russe est beaucoup moindre que pour les Polonais ou ce flanc est ou les États baltes. Donc, on ne va pas modifier ça. Ce qu'il faut, c'est créer une nouvelle forme d'intersolidarité, notamment entre les Européens. C'est ce que la France s'évertue de faire, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été aussi impliquée dans toutes les opérations de police aérienne, de réassurance sur le flanc Est, et en même temps, elle est extrêmement, bien sûr, impliquée sur le flanc Sud, contre-terroriste, etc. Et on voit qu'il y a certains pays qui commencent à participer à cette nouvelle forme de solidarité. L'Estonie est à côté de nous, à nos côtés, au Mali, le Canada. Donc, c'est ces nouvelles formes d'intersolidarité qu'il faut créer, parce qu'on ne peut pas faire une division géographique des tâches, on perdra toute la cohérence de cette alliance atlantique.
Le problème, et merci beaucoup Mélanie Chalandon, et évidemment on diffuse, on le répète, ce dessin sur les réseaux sociaux,
sur le compte Twitter, et sur le site de l'émission.
Voilà. Le problème, c'est que cette solidarité européenne, tout le monde a conscience, Marc Semo, qu'elle doit être là, elle doit faire émerger cette Europe de la défense, mais on n'y arrive pas, quoi.
Il y a quelque chose différente. Bon, je pense que cette idée qu'on est tous concernés, qu'un Polonais peut être concerné par le terrorisme au Sahel, ou réciproquement qu'un Portugais peut comprendre la menace russe, finalement est en train de monter. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a une conscience que ces menaces, de fait, elles sont toutes réelles. Et que c'est selon les moments que l'une ou l'autre devient principale.
Oui, la prise de conscience est là, mais les initiatives sont pas
en
là.
En revanche, il y a un autre problème qui est effectivement comment créer une autonomie stratégique, un pôle européen. C'est un peu le serpent de mer, parce que depuis le début de l'OTAN, c'est ça la question. Aujourd'hui, les relations avec les États-Unis sont très compliquées, parce qu'il y a un double discours de Trump. Il dit à la fois, il faut que vous preniez, que vous payiez plus, etc., ce qui est tout à fait légitime, mais pour acheter américain. C'est et c'est ça le problème. C'est-à-dire Macron, notamment c'était au moment des commémorations de 12 novembre, il y a eu des clashs avec Trump. C'est non, on fait un pôle européen, ça veut dire aussi créer une industrie de défense. Mais là, on retombe sur des problèmes majeurs, y compris celui, et c'est quand même le problème central, surtout maintenant que les Britanniques vont probablement, enfin on ne sait pas trop bien, voler leurs propres ailes, qui est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Allemagne, avec un pays dont les règles d'intervention restent complètement... c'est quasiment impossible pour l'armée allemande d'intervenir rapidement, et surtout avec un système verrouillé en matière d'exportation d'armement. Et donc, à partir de là, c'est très dur de construire une industrie de défense commune.
Est-ce qu'on peut y arriver quand même, Guillaume Lascombe-Jarias?
C'est vraiment une question... plus qu'épineuse. C'est quasiment impossible.
C'est un peu la question centrale.
C'est à la fois central et en même temps, c'est aussi une tension qu'on a toujours observée. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de ne pas se poser cette question-là quand on est un petit pays où il n'y a pas de base technologique et industrielle de défense. C'est beaucoup plus simple pour un pays comme, c'est-à-dire, toute chose étant égale par ailleurs, la Belgique, les Pays-Bas par certains côtés, la Pologne, encore que on remarque aussi dans ces pays-là le retour et l'émergence de technologies ou de bases de technologies nationales. Le meilleur exemple, c'est la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, maintenant, exporte son char de bataille, qui est fondé d'ailleurs sur une incrémentation de technologies russes. C'est très proche du T-14, Armata. Donc on est quand même sur des modèles qui sont assez proches. Est-ce qu'il est possible de rationaliser aussi l'industrie de défense européenne? Certains diraient que il le faudrait. Un exemple.
Tout le monde dit il le faudrait.
Ah oui, mais c'est très difficile parce que là on touche aussi à derrière des emplois. Vous imaginez bien quel chef d'État décidera de dire écoutez, moi j'accepte de ne plus produire de chars nationaux, de faire des systèmes et de ne plus avoir de juste retour. Qui sera capable de le dire à ses votants?
Alexandra Dubschefer, oui, on
peut
le faire.
Là-dedans, en fait, le problème, et notamment pour nos amis qui sont en Europe centrale, même les pays scandinaves ou les Belges, effectivement, ou Baltes, entrent dans cette question de l'autonomie stratégique européenne, le facteur américain. Et ce chantage, effectivement, américain, qui est pratiquement de mettre en doute ou de conditionner la garantie de sécurité américaine, ce fameux mise en œuvre de l'article 5 ou pas, à l'achat de matériel militaire américain. Donc c'est là où on rentre vraiment dans une espèce de pression, alors qui s'est vraiment accentuée sous l'administration Trump, d'où la bilatéralisation aussi des relations. On le voit avec ce fameux fort Trump polonais, hein, et dont l'OTAN va faciliter l'installation des équipements militaires pour mettre en œuvre ce fort Trump.
Donc, les Polonais, pour dire aux auditeurs, sont prêts à débourser 2 milliards de dollars pour qu'il y ait l'ouverture d'une base permanente. Américaines sur leur territoire.
Absolument, avec bien sûr l'achat d'équipements militaires, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment une dualité entre les pays qui disent, si on commence à montrer qu'on s'autonomise trop des Américains stratégiquement, politiquement, industriellement, eh bien ils vont penser qu'on peut se débrouiller tout seul, et que donc la protection militaire américaine n'est plus nécessaire.
Ça,
c'est vraiment sous-jacent dans l'état d'esprit, je dirais, de ces pays pour qui, effectivement, le lien, la protection militaire américaine et donc de l'OTAN est absolument vital. Ce qu'essaye de faire passer très difficilement la France, et j'ai trouvé le discours de notre ministre de la Défense Parly excellent à Washington il y a quelques jours à l'Atlantic Council, c'est-à-dire de dire, nous, si on est opérationnellement plus autonome, c'est-à-dire plus capable de prendre en charge des crises, des situations où les Américains diront c'est un business européen, nous on ne veut pas intervenir, eh bien on devient un partenaire beaucoup plus intéressant, beaucoup plus crédible pour Washington. Donc c'est complémentaire.
Sauf si on n'achète pas de matériel américain. C'est à cette occasion que Florence Parly a dit justement l'article 5 n'est pas l'article F-35.
Bien sûr. Et je pense que ça résume vraiment l'objectif de cette autonomisation de l'industrie de défense européenne.
Guillaume Lascombe-Jarias.
Sur Il y a aussi une autre chose, c'est que de toute façon, au-delà même des questions industrielles, il y a aussi la question de ce qu'on appelle le single set of forces, c'est-à-dire que, pour dire les choses de manière beaucoup plus claire, les soldats aujourd'hui en Europe, ils ne portent pas, ce ne sont pas 3 ou 4 ou 5 différentes armées. Il n'y a pas une armée pour l'OTAN, une armée pour l'Union européenne, une armée pour les interventions nationales. C'est le même soldat en fait qui enlève et qui change le patch qu'il porte sur son épaule. Et c'est ça qui pose aussi une véritable question. On ne peut pas tout faire. On doit donc décider aussi de avec qui on va le faire.
Attendez, on ne peut pas tout faire. Ça veut dire, faisons l'hypothèse. On a vu que c'était très difficile, mais faisons l'hypothèse qu'on a d'ici je ne sais pas combien de temps, une décennie, deux décennies, une vraie Europe de la défense avec une industrie européenne. Est-ce qu'elle peut cohabiter avec l'OTAN? Ou est-ce que nécessairement ça veut dire que l'OTAN se disloque?
Oui.
Non, oui, quoi?
Oui, elle peut cohabiter.
Oui, elle peut cohabiter.
Oui.
Partenaire et pas protégée.
C'est ça.
Bien sûr. Et il y a des situations, je pense notamment au flanc sud, la Méditerranée, Moyen-Orient et l'Afrique, où déployer des forces de l'OTAN, à mon avis, d'un point de vue image et légitimité, pose problème. Donc il y a des situations aussi où justement l'instrument européen sera beaucoup plus adapté que l'instrument otanien ou une intervention américaine. Mais l'exemple qui a montré qu'on était effectivement très limité dans nos capacités d'intervenir seul, ça a été la Libye en 2011. Où on a été après obligé d'avoir un commandement otanien, avec les Américains derrière à nous fournir toutes les capacités qu'on avait épuisées en quelques semaines. Donc on voit qu'on dépend encore énormément sur l'outil militaire américain et donc otanien. Donc l'idée, c'est comment rendre ces formats de coopération complémentaires. On a besoin d'une OTAN forte, d'une relation avec les États-Unis forte, d'une Europe forte et de relations bilatérales, je pense notamment aux Britanniques, pour la France, fortes. Et tous ces formats de coopération minilatéraux, multilatéraux, bilatéraux sont totalement complémentaires. Et ça passe très mal en fait à Washington.
Et d'ailleurs, les Britanniques sont plutôt assez enclins de poursuivre l'aventure militaire plutôt avec les Européens qu'avec les Américains. Ils ont compris que la fameuse relation historique, relation spéciale, en fait, elle s'était assez largement étiolée. Marc Sémon.
Est-ce que vous pensez qu'il faut changer le nom? Parce que, bon, finalement, la vocation de l'OTAN en Europe reste assez limitée. Donc, c'est quand même, son nom, c'est Organisation Traité de l'Atlantique Nord. Bon, l'OTAN fait de plus en plus de choses tout à fait hors zone. Un jour, se posera même peut-être la question par rapport à la Chine. Donc, est-ce qu'il faut changer de nom?
Je pense que l'OTAN aurait dû changer de nom
après,
en 89.
Bon, et maintenant?
Voilà. Bah maintenant, écoutez, on y est. Hein, donc, c'est comment faire en sorte que cette alliance atlantique s'adapte perpétuellement. Une alliance militaire, par définition, et ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle est perméable. C'est une passoire. Elle est perméable aux menaces extérieures. Et donc, quand une menace devient plus importante, il faut qu'elle s'adapte. Et là, bon, changer le nom, je ne sais pas ce que ça apporterait.
Il faut rebaptiser l'OTAN.
Je ne sais pas si on est capable de rebaptiser, parce que ça veut dire aussi remettre en question le traité de Washington. Et je pense que ça, personne ne le veut, parce que tant qu'il tient, à mon avis, il faut le préserver. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est peut-être l'européaniser encore plus et montrer bien que c'est la complémentarité notamment, et c'est ce que montre d'ailleurs depuis 2016 les déclarations conjointes entre Union européenne et OTAN qui sont très fortes et qui montrent bien qu'aujourd'hui on va peut-être pas vers un partage du fardeau, mais au moins vers un partage des tâches.
Beaucoup à nos invités, Alexandra Deup-Scheffer. Je rappelle que vous êtes directrice du think tank américain German Marshall Fund. Merci Guillaume Lascon-Jarias. Vous êtes chercheur à l'IRENCO, l'Institut de recherche sur les environnements complexes. Merci cher Marc Sémo, notre partenaire du monde. On se retrouve la semaine prochaine, Marc. Et ben, dans un très court instant, même tout de suite même, on va retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
L'ordre international se réorganise très profondément, disiez-vous hier, et l'Europe peine à s'adapter à cette nouvelle donne. Ces bouleversements sont largement le fait de la montée en puissance d'un acteur qui entend réécrire un certain nombre de règles du jeu commercial mondial, la Chine.
Oui, la Chine qui propose un modèle de mondialisation alternatif à celui qui existait jusqu'alors. Et le projet pharaonique Une route, une ceinture, également baptisée Nouvelle route de la soie, en est l'incarnation. Il ne s'agit plus cette fois de fluidifier les échanges immatériels, les capitaux et les services, mais d'installer de l'extrémité orientale de l'Asie jusqu'à l'océan Pacifique en Europe, tout un réseau de voies terrestres, One Belt, et maritimes, One Road, et les infrastructures nécessaires à l'accélération des échanges de marchandises. Alors que les équilibres mondiaux et les principes qui organisaient notre fameux multilatéralisme soit en train d'être bouleversé, c'est ce qu'expliquent depuis quelque temps déjà de bons observateurs. Et on relève parmi eux la présence de plusieurs grands historiens de l'économie, comme Harold James ou Niall Ferguson. Apparemment, les outils dont ils disposent leur auront permis de discerner certaines grandes ruptures de l'ordre du monde au moment même où elles se produisent. Ils proposent aussi des exemples pris dans le passé. L'Allemagne impériale, rappelle ainsi Harold James, s'était lancée au tournant des 19e et 20e siècles, dans un projet comparable à celui de la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire de concurrencer la prééminence commerciale britannique sur la terre et sur les mers. Le Bagdad-Bahn, le chemin de fer Berlin-Bagdad construit par les Allemands, était l'équivalent pour l'époque de la nouvelle route de la soie chinoise. Et il y a des conclusions à tirer de cette comparaison. Comme à cette époque, ce sont les pays les plus en retard sur le plan économique, les plus à court d'investissement et ceux qui ont le sentiment d'avoir été tenus à l'écart de la mondialisation des échanges, qui se montrent les plus empressés à participer. Hier, c'était la Turquie, l'homme malade de l'Europe, qui était tombé à cette occasion sous la coupe du Reich allemand. Aujourd'hui, les pays les plus intéressés par l'initiative chinoise sont ceux en Europe qui n'ont pas su se relever de la crise de 2008, comme la Grèce, qui a vendu, on s'en souvient, la majorité du port du Pirée à la Chine, mais aussi le Portugal, avide de capitaux chinois, et à présent l'Italie, dont l'économie est en train d'être ruinée par une coalition populiste irresponsable. Alors, Harold James s'inquiète de voir les Européens diverger sur la stratégie à adopter envers la Chine. Certains pays européens, en effet, accueillent les investissements chinois avec avidité parce qu'ils en manquent. D'autres, en particulier la France et l'Allemagne, mettent en garde contre le risque de pillage technologique, la prise de contrôle d'acteurs économiques clés dans des secteurs stratégiques.
Mais Brice, l'Union européenne a beaucoup infléchi son approche de la Chine au cours des 2-3 dernières années.
Oui, la Commission a publié tout récemment, puisque c'était le mois dernier, un document d'orientation qui décrit la Chine, je cite, comme « un concurrent économique en quête du leadership technologique » et un rival systémique promouvant des modes de gouvernance alternatifs. Fin de citation. L'UE se montre beaucoup plus réservée envers une Chine qui n'a pas hésité à faire du dumping pour écouler ses surproductions, une Chine qui ne pratique pas la réciprocité dans le degré d'ouverture des marchés et une Chine qui ne respecte pas toujours la propriété intellectuelle des firmes de ses concurrents. L'Europe a pris conscience, écrit Andrew Small dans Foreign Affairs, que pour la Chine, les intérêts commerciaux et la politique extérieure sont étroitement imbriqués. L'UE observe les mesures défensives prises par l'administration Trump aux États-Unis, mais elle hésite à s'y associer. Les Européens ne veulent pas être un pion dans le grand jeu américano-chinois, mais ils ne peuvent pas espérer jouer dans la cour des grands, ils ne peuvent y parvenir que s'ils arrivent unis. Le sont-ils ? Certes, il existe des perturbateurs comme la Grèce ou la Hongrie qui, à certaines occasions, ont bloqué des mesures protectrices en discussion au Conseil européen, mais on observe aussi des déceptions du côté de certains États européens, hier encore très engagés envers la Chine. Le groupe qu'on appelle 16+1, qui regroupe des États d'Europe centrale et balkanique pour un partenariat stratégique avec la Chine, s'est rapproché de l'Union européenne, auquel certains de ses membres d'ailleurs appartiennent, afin de mieux coordonner leur politique. Et il est significatif qu'Emmanuel Macron, l'un des chefs d'État européens qui s'est montré le plus défensif envers la Chine, est tenu à la présence de la chancelière allemande et du président de la Commission européenne lors de la récente visite à Paris du chef de l'État et du Parti communiste chinois. C'était une manière de faire savoir que l'on pourra de moins en moins jouer nos petits États les uns contre les autres, comme le faisait Pékin au cours des années passées. Mais les Européens redoutent aussi de faire les frais d'un grand deal sino-américain qui semble d'ailleurs être l'objectif poursuivi par Trump.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.